Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de 2 ans que j'ai allaité durant 1 an et je suis la créatrice de ce podcast. Dans la vie, je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. J'accompagne spécifiquement certaines problématiques d'allaitement en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement, permettant un allaitement serein pour la mère et l'enfant. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expériences et de vécu dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mamans et des papas sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Mon objectif est simple, vous informer, vous donner les clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Églantine, alias docteur Doudou, est médecin généraliste et la maman de 2 enfants. Son premier allaitement n'a pas connu la crise, facile et serein du premier au dernier jour. Alors quand l'éventualité d'un deuxième allaitement s'est présentée, pas de doute, Églantine allait allaiter sa fille et s'est projetée tout de suite. Et pourtant, après des démarrages somme toute assez simples, ce deuxième allaitement va quelque peu la secouer. Et cela commence avec une frénotomie suivie d'une première, oui je dis bien première grève de tétée. Une grève de tétée, c'est quoi? C'est quand votre bébé ou bambin, de son propre chef, décide de ne plus téter sur une période donnée. On pourrait croire à un sevrage catégorie facile, et à partir d'un certain âge, cela peut être le cas. Mais dans l'histoire d'Églantine et de sa fille, ce sont bien des grèves et non sollicitées. Alors pourquoi mon bébé s'arrêterait subitement de téter? Ça dure combien de temps cette histoire et comment est-ce que ça s'arrête? Voici l'histoire d'une maman qui coûte que coûte, souhaite que son bébé reprenne le sein et cherche à mettre fin à ses grèves de téter. Et croyez-moi, ce n'est visiblement pas de tout repos. Place à Églantine, sa fille, leurs aventures et mes aventures lactées. Salut Églantine, bienvenue dans Milkshaker.
Salut Charlotte.
Églantine, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je t'ai contactée pour que tu me racontes ton expérience, puisque j'avais vu passer dans tes posts tes retours d'expérience autour des grèves de tétée de ta dernière fille. Et donc, je voulais que tu me racontes ton expérience. Alors, vas-y, d'abord, comme tout le monde, je te propose de te présenter. Qui es-tu? Combien as-tu d'enfants? Et qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Je m'appelle Églantine, j'ai 37 ans, je suis médecin généraliste. J'ai 2 enfants, un petit garçon de bientôt 5 ans qui a été allaité un peu plus de 2 ans et demi et une petite fille qui va avoir 21 mois et qui est toujours allaitée.
Ok. Églantine, donc tu es médecin généraliste, comme tu le disais. Est-ce qu'avant d'allaiter, tu avais une idée bien précise de ce que c'était l'allaitement? Est-ce que pour toi, c'était quelque chose d'important? Est-ce que tu avais des connaissances à ce sujet-là? Comment tu as démarré tes expériences d'allaitement?
Alors non, pas du tout. Je n'avais pas de connaissances particulières. C'est pas beaucoup enseigné en fac de médecine. Et donc, ça a démarré très, très simplement avec mon premier petit garçon, dont j'ai accouché par césarienne. Et j'ai eu la chance d'avoir une conseillère en psychopérinatalité et en lactation qui était avec nous le jour de la césarienne et donc qui a été là pour m'aider pour démarrer l'allaitement et puis pour m'aider aussi à traverser le choc de la césarienne et pour me donner toutes les informations sur l'allaitement à la fois en tant que maman et en tant que futur médecin. Et ce jour-là, elle s'est pas trompée de cible hein, puisque ça a été un peu une révélation pour moi. Au début, comme tout le monde, j'ai commencé l'allaitement. Je pensais même pas continuer à la reprise du travail. Et puis les mois se sont écoulés et voilà, je me suis aperçue que je ne voulais pas arrêter.
D'accord. Alors comment elle s'est passée cette première expérience d'allaitement ? Est-ce que c'était un allaitement fluide ? Est-ce qu'il y a eu des soucis au démarrage ?
Donc pour mon fils, pour l'aîné, ça a été vraiment un allaitement très fluide, très serein. Il a tout de suite très bien tété. C'était ce qu'on appelle un drogué du sein, puisque
d'accord.
Le sein servait vraiment à tout avec lui, voilà, jusqu'à un âge assez avancé. Et paradoxalement, il s'est sevré tout seul. Alors j'étais enceinte de la deuxième, donc évidemment la grossesse a un petit peu aidé, puisque quand j'étais enceinte, progressivement le lait s'est tari. Mais voilà, alors que c'était vraiment un vrai drogué, il tétait toute la nuit, dès qu'il se passait quelque chose dans sa journée, maman tétait. Et puis en fait, ben voilà, ça s'est arrêté super sereinement aussi. C'est lui qui a arrêté de lui-même en douceur et il n'est pas revenu ensuite.
Ok, ouais, donc l'allaitement un peu comme on le souhaite, ça démarre bien, c'est fluide et le jour où on veut arrêter, finalement, ça se passe sans encombre.
Exactement, aucune crevasse, aucune plaie, aucune morsure. Rien du tout. Voilà, et du coup, je trouvais ça vraiment extrêmement pratique parce que c'était le tout en un de la maman, le tout en un de la puéricultrice, si je puis dire, puisque ça servait vraiment à tout.
Ok, génial. Alors, du coup, comment tu as abordé ce deuxième allaitement ? Tu t'es dit, allez, easy peasy, tout va bien se passer, j'allaite une deuxième fois.
Exactement, pour mon deuxième enfant, donc je ne sais pas que c'est une petite fille, mais voilà, pour ma petite fille, déjà même, je me demandais si ça allait pas, il n'y allait pas y avoir de co-allaitement, puisque au début de la grossesse, l'aîné était encore et qu'il était encore bien accro. Ça ne me faisait pas peur, je partais même pour un co-allaitement qui ne s'est jamais passé, mais c'était pas grave. En tout cas, pour la deuxième, j'y allais conquérante, bille en tête, en mode, voilà, je suis une super maman allaitante, tout va très bien se passer, de toute façon, il suffit juste d'offrir le sein à la demande, et puis après, c'est bon, c'est parti. Donc voilà, extrêmement confiante, avec le papa aussi, du coup, on était d'accord pour repartir sur ce même mode d'allaitement, vraiment à la demande, avec le cododo, les tétés nocturnes, aucun problème. Le grand aussi, ça ne lui posait pas de problème que le nouveau bébé tète, on lui avait bien expliqué que ça prendrait du temps, etc. Mais voilà, c'était vraiment une évidence et j'étais sûre que ce serait aussi facile que pour le premier.
Et alors, la vie t'a réservé autre chose cette fois-là ?
Évidemment, voilà, comme on peut s'en douter, ça ne s'est pas du tout passé comme ça.
Alors raconte cette fois-ci, comment ça s'est passé au démarrage déjà ?
Alors, au démarrage, bien. Par contre, voilà, rien à dire au démarrage. Hein, tout de suite, la prise de poids a été bonne le premier mois, pas de crevasses, pas de plaies. Une lactation très importante, aussi importante que pour l'aîné, alors qu'on m'avait dit que pour un deuxième enfant, comme les seins, les glandes de ma mère étaient un peu plus entraînés, entre guillemets, c'était possible que j'ai moins de lait au départ. Pas du tout. Donc voilà, j'ai découvert vraiment ce que c'était aussi l'hyperlactation. Alors, je sais que tu en as beaucoup parlé aussi dans des précédents podcasts. Mais voilà, donc énormément de lait.
Tu dégoulinais de partout.
Je dégoulinais, je trempais le lit, la turbulette, l'enfant, le pyjama, mon propre pyjama. Et ça a quand même duré plusieurs semaines, alors qu'on dit souvent c'est le premier mois, ou éventuellement on est en hyperlactation, pour que la lactation se lance bien. Moi, ça a perduré, cette hyperlactation. Après, mais sinon, en soi, c'était évidemment toujours de l'allaitement à la demande. Alors, je la trouvais un peu moins accro que l'aîné, quand même. Mais voilà, ça se passait bien. Du coup, aucun problème de production. J'ai repris le travail en tirant mon lait. Les difficultés ont commencé avec la reprise du travail, puisqu'elle prenait très peu, voire elle refusait le lait dans n'importe quel contenant. Hein. Elle était gardée chez la nounou, donc elle avait 4 mois et demi quand j'ai repris.
Et ça n'avait pas été le cas avec ton fils. Ton fils, il avait accepté, quand tu avais repris le travail, de prendre...
Il avait accepté. Alors, on avait pris un biberon spécial allaitement avec un débit très lent. Et en plus, lui, j'avais repris vraiment à plein temps. Il était plus petit. Il avait 3 mois et j'avais repris à plein temps et il prenait bien son biberon, nickel. Bon, il se rattrapait la nuit, bien sûr, mais ça se passait bien. Et puis pour la deuxième, voilà, on a essayé plusieurs biberons, plusieurs contenants. La nounou a un peu galéré aussi. Et la courbe de poids a tranquillement commencé à stagner vers les 4-5 mois. Déjà, ce n'était pas un gros bébé à la naissance, 2,9 kg. Ouais. Voilà, ça commence, ouais, voilà, ça a commencé tranquillement à stagner. Donc là, je me suis un petit peu affolée, non, mais j'ai commencé un petit peu à m'y intéresser de plus près. Évidemment, quelques gentilles réflexions de la médecin généraliste qui la suivait pour dire que bon, peut-être que voilà, même si mon lait était très nourrissant, il fallait lui en donner un peu plus. Oui, bah, je pouvais pas non plus lui mettre de sonde de gavage. Hein, donc,
toi, tu sentais que tes seins produisaient moins ? Il y avait quelque chose en dehors de sa courbe de poids qui stagnait ? Est-ce que de ton côté, il y avait des warnings qui s'allumaient ou pas du tout ?
Alors du coup, moi, le warning qui s'affichait, c'est que j'avais toujours cette hyperlactation de fou. Mmh. Et donc, je me suis commencé un petit peu à me renseigner.
Malgré ça, elle cassait quand même sa courbe de poids.
Ouais,
elle stagnait.
Elle cassait un peu. Et donc, c'est là où je me suis dit... Enfin, j'ai commencé à me renseigner et j'ai appris que les hyperlactations, ça pouvait être aussi le reflet de mauvaises prises de sein. Et du coup, que ce soit en fait une hyperlactation qui vienne compenser la mauvaise prise de sein et la prise insuffisante de lait. Donc du coup, j'ai commencé à me renseigner. J'ai été voir une chiropracticienne, un chiropracteur, je ne sais pas.
Ouais.
Une chiropracteur ou praticienne.
On dira une chiro pour les intimes.
la seule spécialisée sur les freins, les fameux freins restrictifs de langue qu'on ne voit pas et auxquels personne n'est formé. En tout cas, c'était la seule qui était formée sur le département. qui m'a confirmé qu'il existait effectivement des freins restrictifs type 4, des freins de joue aussi. Donc, on a d'abord travaillé plusieurs fois en séance. Enfin, elle a travaillé plusieurs fois en séance pour essayer de lever les tensions, pour essayer de faciliter l'allaitement. C'est vrai que ça allait mieux, mais ce n'était pas encore suffisant. Elle m'a proposé du coup une frénectomie. Avec, pareil, un des deux seuls spécialistes vraiment en France. Donc, moi, c'était celui d'Aix-en-Provence. Il y en a à Paris, et puis voilà, l'autre Aix-en-Provence. On y a été pour faire la frénectomie. Donc, elle avait 5 mois et demi. On habitait à 2h30 en voiture. 2h en voiture. On y est allé. Et puis, ça s'est bien passé. Elle a tété tout de suite après. Elle a tété dans la voiture au retour avec la fameuse position tété voiture, là où on se prend le cosy dans...
Ah oui.
Dans les côtes, et on se dit si on a un accident, là j'ai la rate qui éclate et j'y passe, mais c'est pas grave.
Considération de médecin généraliste, j'ai la rate qui éclate. Super.
Et à la maison, donc à 4h30, moi j'étais bien fatiguée, j'ai dit allez, on va faire notre petite sieste, tété sieste là. Mm-hmm. Et bien voilà, la première grève de tété, ça a été à ce moment-là, ça a été l'après-midi d'après la frénectomie à la maison. Donc, je n'ai pas du tout compris, en fait, ce qui se passait.
On ne t'avait pas prévenu que ça pouvait arriver ?
On m'avait prévenu, enfin, sur la lettre, enfin, sur la fiche explicative de l'ORL, c'était bien marqué que le bébé pouvait refuser le sein et tout. Et c'est même mon mari qui m'a dit « Mais si, regarde, c'est marqué !» Et ta gueule, enfin, c'est comme voilà. Moi, je n'ai pas tout compris ce qui se passait. En fait... Pour moi, un enfant qui refusait le sein, c'était surnaturel. C'était surnaturel, c'était impossible.
Oui, parce que tu avais ton expérience de ton premier qui, lui, le prenait pour tout.
Mais oui, et surtout, on n'avait jamais vraiment parlé de ces histoires de grève de tétée. Pour moi, c'était un mythe, un petit peu, voilà, qui planait vaguement au-dessus des têtes de certaines mères allaitantes et de certains bébés un petit peu difficiles. Mais c'était quelque chose de vraiment ubuesque. Dans la réalité, ça n'existait pas, ça ne pouvait pas m'arriver. Donc, j'ai pas du tout compris. Donc, j'ai essayé de lui donner allongé à droite, allongé à gauche, debout, dans le porte-bébé, position ceci, position cela. Et elle hurlait. Donc, évidemment, elle ne voulait pas dormir, elle ne voulait pas boire, elle ne voulait pas manger. Moi, j'ai commencé à flipper en me disant, elle va se déshydrater.
Ouais.
C'est la fin, qu'est-ce qu'on a fait ? Mère coupable, etc. J'ai rappelé la chiro, du coup, en larmes à 15h, en lui disant « Mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas. » Et donc, elle m'a dit « Venez me voir. » Donc, j'y suis allée. Alors, c'était plutôt une très bonne idée, je pense. Alors déjà, en plus, il était 5h30, donc c'était l'heure des bouchons. Du coup, voilà. Dans la voiture, elle s'est endormie. J'ai écouté Radio Classique pendant une heure avec les bouchons. ça m'a calmée aussi. Tout le monde s'est détendu.
Comme quoi, les bouchons, parfois, ça peut avoir du bon.
Exactement. Là, c'était vraiment bien. Et voilà. Et donc, la chiro m'a dit, bah, c'est une petite crève de tétée. Je dis, ah bon? donc, elle a un petit peu massé. Elle m'a écoutée. J'ai pleuré. Je pense que j'ai...
T'as déversé ton sac.
Ouais, exactement. On a fait le trajet de retour, toujours les bouchons, toujours radio classique. Et puis, de retour à la maison, elle a retété, on va dire, il était 21h et elle s'est endormie. Voilà, ça s'est bien passé. Elle a tété les deux seins, ni vu ni connu.
D'accord, donc ça a duré une demi-journée.
Ouais, une demi-journée. Entre-temps, pendant cette demi-journée, j'avais évidemment bien sûr eu le temps d'envoyer des messages désespérée à toutes mes copines conseillères en lactation, enfin en tout cas une en particulier que tu connais, Camille Lolo Helpeuse, qui m'avait répondu évidemment et qui m'avait dit que les grèves de tétée ça pouvait durer jusqu'à 2 semaines. Et quand elle m'avait dit ça cette première après-midi, je m'étais dit mais elle est complètement folle. Comment est-ce qu'on peut faire une grève de tétée jusqu'à 2 semaines? C'est pas possible. Moi je vais faire une crise cardiaque là dans l'après-midi. Voilà. Donc, c'était notre première grève.
D'accord. Et qui, malheureusement, est le début d'une série de grèves de TT.
Voilà. Il y en a eu 2 autres. Donc,
attends, parce que d'abord, ton bébé, donc ce frein de langue sectionné, reprend cet été au bout d'une demi-journée. Ouf, on est rassuré, tout va bien. Ça aura été intense, mais ça n'aura pas duré trop longtemps. Oui. Une fois ce cap-là passé, est-ce que du coup elle tète mieux? Est-ce que ta lactation se stabilise? Est-ce que elle, son poids reprend, etc.
Alors, elle tète mieux, oui. Ma lactation se stabilise un petit peu. Après, voilà, je reste toujours un petit peu quand même en hyperlactation. Je pense que, il y a des femmes qui ont beaucoup de lait, il y a des femmes qui ont un peu moins de lait. Moi, je pense que clairement, tu me mets au 16e siècle en tant que nourrice dans un château. J'aurais été capable de nourrir mes enfants, ceux de la voisine, ceux de la châtelaine et ceux de la châtelaine d'à côté. Donc, c'est-à-dire que de base, à mon avis, j'ai des glandes de ma mère qui produisent beaucoup de lait. Donc, même si j'avais moins d'hyperlactation, ça restait quand même toujours versant plus que versant moins. Mm-hmm. Elle, son poids, alors bon, malheureusement, ne s'est pas forcément... Enfin, voilà, il n'y a pas eu de remontée en flèche. Bon, je t'avoue que depuis, c'est toujours un peu une problématique. Enfin, ce n'est pas une problématique, mais voilà, elle a toujours un poids depuis qu'il y a un petit peu limite. Mais là, maintenant, je sais que ce n'est plus à cause de soit de ma lactation, soit des freins, soit etc. Je pense que c'est aussi sa nature d'avoir un petit poids, tu vois. Okay. En tout cas, effectivement, moins de tension après la frénectomie. Donc, on est retourné voir évidemment la chiro. On a fait les massages comme il fallait. On l'a bien positionné sur le ventre ou bien la position. Là, je me souviens plus du tout de cette position, mais celle où le bébé a la tête un petit peu vers l'arrière, là, le dummy, je pense que tu dois savoir.
Le guppy.
Voilà, c'est ça. Donc voilà, ça on lui a bien fait. C'est vrai que moi je trouvais que c'était un bébé qui était plus détendu après quand même. Donc ça c'était plutôt chouette. Du coup, donc là elle a 6 mois. Voilà, en parallèle, on commence la diversification. Petit appétit, voilà, toujours petit appétit. Appétit de petit moineau. Mais bon, elle tète quand même bien. Elle mouille bien ses couches. Voilà, elle grandit doucement, doucement. Et puis... Quand même, au fur et à mesure des semaines, je trouve que c'est vraiment un allaitement qui s'éloigne de mon premier allaitement, puisqu'en fait, elle ne me demande pas la journée. Voilà. C'est-à-dire que même la tétée des retrouvailles, après la journée chez la nounou, c'est pas quelque chose qui l'intéresse énormément.
D'accord.
Alors que pour mon premier, fallait que je dégrafe le soutien-gorge à 1 km. Hein. Pour elle, pas du tout. Donc, la journée, en fait, elle ne me demande pas. Voilà, elle tète pour dormir. Il faut qu'on soit allongé dans le noir. Il ne faut pas qu'il y ait de bruit.
D'accord.
Il ne faut pas trop... Voilà, il ne faut pas qu'il fasse trop chaud. Il ne faut pas qu'il fasse trop froid. Dès qu'elle est un peu enrhumée, c'est très compliqué. Voilà, donc, une petite fille exigeante sur les conditions de réalisation des tétés.
Ouais.
Et ce qui est du coup est un petit peu anxiogène, parce que ben voilà, il y a cette problématique de poids. Donc je me dis, bon, d'un côté, elle prend pas de poids, mais en même temps, voilà, c'est pas une goulue-goulue. Et en plus, quand elle tète, il faut vraiment que toutes les conditions soient réunies pour que rien ne la dérange.
Ouais, donc un allaitement pas hyper serein, pas comme la première fois où tu peux faire confiance à ton fils, tu sais qu'il va demander quand il a besoin. Là, tu as l'impression de devoir un petit peu driver.
Oui, exactement. Donc voilà, c'est pour ça que l'expression allaitement à la demande, je dis oui, mais en fait, quand il n'y a pas de demande, comment on fait concrètement? Voilà. Et puis, donc, après les 6 mois, il y a cette phase où ils sont effectivement éveillés, curieux. Alors, pareil, hein, je savais que dans cette phase-là, ils peuvent se désintéresser du sein parce qu'ils sont dans des périodes de sensibilité, de développement moteur, de jeu, d'interaction sociale, etc. Et que donc, le sein, ça les intéresse moins, ce qui est bien, enfin, ce qui est normal. Mais là, c'était quand même vraiment, ça commençait à devenir. Un petit peu problématique. Et puis, donc 9 mois et demi, je crois, 9 mois et demi, elle a commencé un peu à me mordre. Voilà, une fois, deux fois, à pincer, à mordre. Et donc, il y a eu une journée, donc c'était un mercredi, puisque le mercredi, comme toute bonne mère de famille sacrificielle, je ne travaille pas pour m'occuper de mes enfants. Donc voilà, le mercredi matin, je lui propose, donc j'avais mon grand également, hein, je lui propose une petite sieste au calme dans la chambre. On poursuit la matinée, donc je commence à avoir le sein bien plein, puisqu'elle n'avait pas tété du coup depuis le matin.
Ouais.
On déjeune, arrive la sieste qu'on fait d'habitude toutes les deux au sein pendant que le grand regarde un dessin animé, puisque comme toute bonne mère, je mets le grand devant un dessin animé pour pouvoir faire la sieste avec le bébé.
Bien sûr, jusque-là tout va bien.
Donc voilà, et puis là, on est dans le noir, et paf, elle me mord vraiment fort. Donc là, je crie. Donc, quelle idée j'ai eue d'exprimer mes émotions, n'est-ce pas? Puisque elle s'est mise à pleurer, à hurler, vraiment le gros chagrin, et refus du sein. Donc pareil, je savais que la morsure et le cri ou le refus un peu ferme de la maman, ça pouvait provoquer des greffes de tétée chez les bébés déjà sensibles, on va dire, de base. Et ben là, voilà, on est dans le panneau droit devant.
Ah ouais, donc là, pas manqué, pas le droit à l'erreur, boum, direct, greffe de tétée.
Ouais, exactement, boum, direct. Donc, je savais, parce que j'avais vécu une après-midi de grève, hein, donc là, je me suis dit, ok, c'est ça. Mais pareil, cette espèce de vague d'angoisse... complètement irrationnel que j'ai ressenti à la seconde même où elle a refusé le sein et où j'ai compris qu'on rentrait dans une phase de grève. Voilà, je me suis sentie vraiment très très mal.
Tu t'en voulais du coup?
Non, je m'en voulais pas parce que quand même j'avais parce que mince quoi parce que j'avais
parce que mince, crié
quand même.
Tu t'es fait bouffer le sein quoi.
Voilà, parce qu'elle m'avait quand même vraiment fait mal, donc non, pas de culpabilité, mais plutôt un sentiment de lassitude en me disant bah merde quoi.
J'ai le droit de crier quand on meurt quoi.
Bah oui, quand même quoi, on a le droit de dire non ou de crier. Bon voilà. En plus c'était un cri qui était instinctif, tu vois, je lui ai même pas dit non, enfin je l'ai même pas grondé, c'était même pas contre elle. C'était juste vraiment un cri de surprise, de douleur. Mais bon, elle évidemment avec son petit cerveau de 9 mois voilà.
Ouais,
elle s'est dit, bah tiens, une petite occasion de plus de... Non, je rigole, évidemment, elle s'est dit ça. Hein. Alors, rappelons qu'à 9 mois, un enfant n'est pas capable d'élaborer ce genre de
réflexion.
De manipulation. C'est pas possible.
Fait. En tout cas, ça l'a choquée, tu l'as vu sur le moment, puisqu'elle s'est fâchée, elle a eu un gros chagrin. Et, et derrière, elle a recommencé à... Enfin, plutôt, elle a réarrêté de téter.
Elle a réarrêté de téter. Donc, évidemment, j'avais les seins quand même bien, bien pleins. Je n'avais plus de tire-lait à ce moment-là.
Ah.
L'après-midi, voilà, se passe un petit peu. Alors, j'essaye une promenade en porte-bébé. Elle arrive... Ah oui, donc évidemment, elle pleure beaucoup puisqu'elle ne veut pas dormir, puisqu'elle ne veut pas téter.
Et oui.
J'essaye, voilà, on va faire une promenade en porte-bébé. Elle s'endort un peu dans le porte-bébé, mais refus du sein, toujours même en dormant dans le porte-bébé. Voilà, là je commençais vraiment à me sentir mal puisque le soir pareil, refus du sein à l'endormissement. Évidemment, mon mari rentre, on va pas dire que son soutien a été extraordinaire et son empathie était extraordinaire à ce moment-là.
Ok. Qu'est-ce qu'il disait? Voilà. Il disait, bon, c'est pas grave, si elle arrête, voilà, elle fait
ça.
Ce qu'elle veut.
Exactement, c'est ça. Et puis surtout, il disait, mais regarde, elle nous en a déjà fait une, là, après la phrénectomie, il y a 3 mois. Bah, c'est pas grave, ça va revenir.
Oui, il était pas inquiet.
Alors que moi... Non, il n'était pas inquiet. Alors que moi, à l'intérieur de moi, j'avais vraiment une peur, mais je trouve même pas de mots, une espèce de boule d'angoisse primitive, irrationnelle, incompressible. Ça me brûlait de l'intérieur. Et pourtant, j'essayais vraiment hein, de me rationaliser, j'essayais de me rassurer en disant... Tu sais ce que c'est qu'une grève de tétée, puisque du coup je m'étais un peu renseignée. Tu sais ce que c'est, tu sais comment on fait pour lever une grève, tu sais que ça n'est qu'une grève, tu sais qu'une grève finit toujours par se terminer. Mm-hmm. Mais malgré tout ça, malgré tous les messages conscients et rassurants que mon cerveau humain intelligent, la partie frontale, frontale de mon cerveau essayait d'envoyer à mon cerveau reptilien instinctif, là, mon amygdale derrière, mais il n'y avait rien à faire. J'avais des. Voilà.
T'étais paniquée.
J'avais vraiment des vagues d'angoisse qui me prenaient. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais terminer soit à l'asile, soit il y a quelque chose qui va péter dans mon cœur, dans mon ventre. C'est pas possible, comment je vais faire?
Parce que t'avais peur de quoi, tu penses? Enfin, avec du recul, tu dirais que t'avais peur de quoi? Qu'elle se nourrisse pas assez, reprenne jamais à téter, et t'avais peur de devoir faire le deuil d'un allaitement à un moment où tu le voulais pas. C'était quoi, en fond?
Alors, pour cette grève-là, à 9 mois, la première peur, c'était la peur de la déshydratation, et la peur, évidemment, qu'elle perde du poids, qu'elle ne mange pas, qu'elle ne boive pas. Ça, c'était vraiment la première peur. Voilà, purement organique, si je puis dire. Après, c'était moins fort que pendant la grève où elle avait 6 mois, puisque à 9 mois, elle était un peu diversifiée, qu'elle mangeait un petit peu, qu'on pouvait lui donner à boire au verre. Mm-hmm. Néanmoins, elle refusait de boire mon lait tiré au verre.
D'accord.
Voilà, elle ne voulait même pas de mon lait. Donc, c'était vraiment la grosse grève. Et puis, l'autre peur, mais même là, si tu veux, en t'en parlant, je sens que c'est débile. Je n'arrive pas à l'exprimer. Effectivement, peur que l'allaitement s'arrête, parce que moi, je ne voulais pas du tout que ça s'arrête. Mm-hmm. Et puis, voilà, peur de passer à côté de quelque chose en me disant, mais est-ce que voilà, ce n'est pas une épreuve un petit peu qu'elle m'envoie pour voir si je tiendrai. Tu vois, mm-hmm. si j'allais tenir la grève et si j'allais continuer de lui proposer le sein et si j'allais continuer de lui proposer l'allaitement.
Ouais.
Et voilà. Et je ne voulais pas, au final, alors c'est idiot hein, de dire ça par rapport à un bébé de 9 mois, mais je ne voulais pas la décevoir et je voulais aussi qu'elle sache que bah, malgré les épreuves et l'épreuve que c'est qu'une grève de tétée, et ben, je voulais quand même lui montrer que je restais sa maman vaille que vaille et que mm-hmm. l'allaitement, ça faisait partie pour moi du package de la maman parfaite, si je puis dire.
Ouais.
C'est pas du tout politiquement correct, là, ce que je dis, et je m'en excuse.
C'est pas grave, on s'en fiche. On a le droit de dire des trucs pas politiquement corrects.
C'est ma conception, et même là, pour moi, à 22 mois, l'allaitement, ça fait encore partie de cette espèce de coffret, un petit peu, que moi, j'ai envie d'offrir à mes enfants.
Ouais.
Donc, et ben, je voulais garder encore vraiment cette partie-là de la maternité. Je voulais encore continuer de lui offrir ça.
Ouais, c'était un point très important pour toi, comme pour d'autres, c'est d'autres choses.
Exactement, voilà. Pour moi, c'était ça. Et je savais qu'une grève, bah, c'est pas un sevrage. Voilà. Et ouais. Dans ma tête, ça, je faisais bien la différence. Voilà, je me dis, mais ça, là, si je lâche et qu'elle arrête le sein à cause de ça, eh ben, ce sera de ma faute. Et là, pour le coup, effectivement, je me serais sentie coupable si j'avais pas essayé, par tous les moyens, de briser cette grève, ce que j'ai fait.
D'accord. Et alors, comment t'as fait? Comment on brise une grève de tétée? Donne-nous tes tips, parce que...
Donc déjà, le premier truc pour briser une grève, c'est qu'il faut vraiment être entouré de copines et d'amis qui vous soutiennent. Et donc, d'ailleurs, si elles m'écoutent, elles se reconnaîtront. Mm-hmm. Voilà, il faut vraiment être entouré d'un village. Et moi, j'ai ce village, et je l'ai encore, eu pour la seconde grève. Ouais. Il faut vraiment que tous les jours, il y ait quelqu'un qui vous envoie des messages et qui vous dise « Crois-y, elle va revenir. Crois-y, continue, elle va revenir. C'est une grève. Toute grève finit par se terminer. Continue, crois-y. » Voilà. Ça, c'est vraiment le premier truc. Si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas cette personne qui vous dit ça, donc soit ça peut être des amis par message, par téléphone, soit ça peut être votre compagnon. Alors moi, mon mari, il a été quand même un peu soutenant. Ce n'était pas lui qui allait m'envoyer des messages pour me dire « crois-y à fond », mais quand même, hein, il m'a quand même un petit peu soutenue.
Ok.
Mais si vous n'avez pas cette personne-là qui est là pour pallier, parce que clairement, une grève, on est dans un état second. Hein. Enfin, voilà, j'étais vraiment dans un état second. Mm-hmm. Donc, si vous n'avez pas ces personnes-là qui sont là pour vous aider et pour vous répéter non-stop que ça va se terminer, je pense que pour moi, c'est impossible de tenir.
D'accord.
C'est d'angoisse, c'est trop de pression, trop d'angoisse. En plus, bah voilà, se rajoute à ça toutes les petites angoisses et tout le lot quotidien. Hein, si on a d'autres enfants, le travail, etc. Évidemment, il n'y a pas que la grève de tété qui est dans la journée hein, de 24 heures, sinon c'est pas trop facile.
Tu croyais qu'elle allait retéter ? T'en étais persuadée ?
Il y avait des moments où j'y croyais. Quand je recevais les messages, je me disais « allez, croisi ». Et puis, il y avait des moments où non, je me suis dit « mais là, c'est fichu ». Parce que voilà, elle pleurait, elle se cabrait, elle mettait sa tête, mais en même temps, elle repoussait, elle hurlait. Je devais la bercer pour l'endormir. C'était très compliqué. Donc, elle pleurait, je pleurais, tout le monde pleurait. Et là, je me suis dit, mais c'est fichu. En plus, bah, comment on fait pour maintenir une lactation ? Donc, j'étais retournée... voilà, donc oui, évidemment, il faut maintenir sa lactation puisque le bébé ne tète plus. Donc, je suis retournée à la pharmacie chercher un tire-lait pour tirer mon lait.
Bien sûr.
Je suis retournée avec mon tire-lait sous le bras au travail pour tirer mon lait au travail. Et puis, comment on brise une grève alors il faut donc la théorie c'est qu'il faut continuer à proposer au bébé ou au bambin dans des conditions les plus instinctives et les plus archaïques possibles qui réveillent en lui en fait les réflexes de tété quand il était tout nouveau-né, tout nourrisson. Réveiller les instincts primaires du tout nourrisson qui va venir à peine né ramper sur le ventre de sa maman et pécho le téton et s'y accrocher.
Ok.
Donc, c'est des tétés en peau à peau, dans le calme, dans le noir, pour s'endormir, dans le bain. Alors moi, le bain, ça marchait pas du tout parce que c'était déjà trop stimulant pour elle. Elle voulait jouer dans le bain, elle faisait plouf plouf, elle me calculait pas du tout. Donc voilà, j'ai essayé une fois et puis après, j'ai bien vu que ça ne fonctionnerait pas.
Ouais.
Donc voilà, c'est lui proposer à chaque fois dans des conditions les plus calmes. Et en fait, nous, la seule chose qui a marché, les seules fois où elle l'a réaccepté, c'était en dormant.
D'accord.
Voilà. Mais alors, là, la difficulté, c'est que si elle dort trop, elle dort trop, donc elle n'a pas le réflexe de succion, si elle est en sommeil trop profond. Mm-hmm. Et si par contre, elle commence un peu à se réveiller et qu'elle sent qu'il y a le sein... c'est fichu aussi parce qu'elle le repousse et qu'elle se met à pleurer parce qu'en plus, évidemment, je l'ai réveillée. Bon. Voilà.
Mais il faut trouver le juste milieu entre bébé dort, mais dort pas trop, mais ouais. Et pas réveillé de trop non plus. Enfin bon, bref, il faut essayer de les prendre dans un semi-sommeil.
C'est ça. Donc, ça veut dire que le propre sommeil de la maman, je fais une croix dessus, hein. En plus, dès qu'on a la chance ou le privilège de les voir se réaccrocher au sein, surtout on bouge plus. donc on peut plus remettre notre bras, notre jambe, notre dos, comme on fait d'habitude, comme on allait un enfant qui dort.
Tout à fait.
Pour bien se mettre quand même, tu vois. là, on peut plus faire ça. Il tète, on bouge plus quoi. Donc c'est ce que j'ai fait. Mm-hmm. Là, ça a duré 3 jours.
3 jours de grève de tétée où elle n'a pas du tout voulu prendre le sein.
Elle n'a pas du tout voulu. Elle prenait un peu la nuit en dormant. J'y arrivais un petit peu quand même. Et donc, évidemment, je savourais chaque tétée comme si c'était la dernière. Hein. J'ai tiré mon lait. Voilà, la lactation se maintenait. Comme je sais que de base, comme je te disais, je suis plutôt un peu usine Candia. Je savais que si elle reviendrait au sein, ça repartirait. Voilà, ouais. Elle avait 9 mois. J'avais confiance dans mon corps et voilà. De ce côté-là, j'étais pas inquiète. Et elle a repris, donc voilà. Le troisième soir, pour s'endormir, elle a dit « Ah, mais tiens, ok.
» Ok.
Et elle a repris « Tété dodo, comme d'habitude, comme si rien ne s'était passé. »
Ah voilà. Ouais, oui, ils ont cette capacité.
Donc, évidemment, le lendemain, moi, j'étais fière comme Artaban, tu vois. J'ai dit à mon mari « Bah, tu vois, j'avais raison, c'était qu'une grève, etc. » Elle m'a dit « Ok, ok. » Voilà. Et donc, c'était ma deuxième. Donc,
parce qu'il y en a eu encore d'autres.
Et ouais, il y en a eu une troisième. Alors là, je pense que celle-là, voilà, je pense qu'on ne peut pas faire pire puisque celle-là, elle a vraiment duré 15 jours. Les 15 fameux jours dont on m'avait parlé au début et où je m'étais dit, mais attends, c'est impossible, 15 jours de grève, comment est-ce qu'on peut faire 15 jours de grève sans terminer en hôpital psychiatrique?
Oui, sachant que tu étais déjà à deux doigts de la crise cardiaque dans l'après-midi.
Après mes 3 jours, mais oui. Eh bien, si. Voilà, donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, elle était plus grande, hein. Vraiment, c'était il n'y a pas très longtemps. Elle avait 18 mois et donc, elle a fait la varicelle, gentiment transmise par son grand frère. Donc la varicelle en soi, je sais que voilà, ce n'est pas quelque chose de grave. Je sais que c'est une infection qui est bénigne, qu'il faut même que les enfants l'attrapent, puisque chez les adultes, ça peut être compliqué. Donc très bien, elle commence la varicelle, pas si mal, pas trop de fièvre, des boutons, mais ça la gratte pas trop. Et eh ben, tout se porte en fait au niveau de sa bouche, de ses muqueuses, avec des aftes, avec aussi des boutons au niveau de sa vulve, une mycose terrible qui apparaît en même temps, des boutons beaucoup au niveau de son visage, de son cuir chevelu, à l'intérieur de ses oreilles, à l'intérieur du nez.
Ah, pauvre louloute.
Voilà, vraiment très compliqué. Et puis, eh ben, qui dit aft, qui dit douleur, qui dit pas bien au niveau de toute la sphère orale, de tout le visage, eh ben grève. Voilà. voilà. Donc là, pour le coup...
Tu l'as senti venir.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ouais, parce que ça s'est fait pendant une nuit, en fait.
D'accord.
Où elle lâchait le tété, elle lâchait le sein, elle disait non maman, pas tété. Bon, parce que voilà, je me doutais qu'elle avait mal, qu'elle n'était pas bien. Et puis, bah voilà, quand après la journée, le lendemain, elle s'est réveillée, c'était un week-end aussi, hein, et qu'elle n'a pas du tout voulu tété, même dans les bras, même rien, là je me suis dit.
On est reparti pour un tour.
Ouais. Elle avait vraiment une très bonne raison, puisqu'elle avait dans un état épouvantable. Et donc
oui,
là,
comme un enfant, de toute façon, qui, quand il est hyper mal au niveau ORL, mange moins, quoi qu'il arrive.
Exactement, voilà. Et donc, bon, alors, médicalement parlant, la varicelle s'est quand même terminée à l'hôpital, puisqu'elle ne tétait pas, mais elle ne mangeait pas, elle ne buvait pas non plus.
Oh,
et donc, voilà, du coup, déshydratation. Du coup, je l'ai amenée aux urgences un dimanche matin. Elle était effectivement déshydratée. Et donc, on est resté 3 jours à l'hôpital pour réhydratation avec la perfusion et renutrition et surveillance. Et puis, lui mettre des antalgiques, lui mettre de la morphine, lui mettre... des antihistaminiques qui allaient l'endormir un peu parce qu'elle ne dormait plus à cause de la douleur, à cause de la fatigue, à cause de tout ce qu'on peut imaginer. Voilà, et donc grève à l'hôpital. Alors le service de pédiatrie dans lequel on était, ils m'ont filé un tire-lait. Très bien, donc le vieux tire-lait des années 70,
ouais.
Qui a la taille d'une machine à laver mais qui a super bien fonctionné du coup. voilà, donc alors en plus j'ai essayé d'expliquer un petit peu aux infirmières parce qu'évidemment elles m'ont d'abord demandé si elle prenait des biberons. J'ai dit non, je l'allaite, mais elle est en grève de tétée, donc je ne veux pas lui donner de biberon puisque je veux qu'elle revienne au sein. Qu'est-ce que c'est une grève de tétée? Oui, bah dadati tatata.
D'accord, il fallait leur expliquer tout ce qui se passait.
Exactement. Donc ça, bon, je me suis dit, au moins, ça sert à quelque chose. Au moins, j'ai pu expliquer ce que c'était qu'une grève de tété.
ne jamais manquer une occasion d'informer les gens sur l'allaitement.
Exactement. Au moins, voilà, j'ai pu expliquer ce que c'était à d'autres personnes. En plus, à des infirmières puéricultrices. Donc ça, c'était... Voilà, c'était
super. C'était tu milkshakes à l'hôpital, quoi.
De quoi?
Je dis, tu milkshakes à l'hôpital.
C'est ça. Ah oui, non, c'était presque un acte syndical. Enfin là, pour le coup, ça colle en plus avec la thématique de la grève. Mais c'était presque une revendication. Alors elle, c'était clairement une revendication de sa part. Et puis moi, du coup, je me suis dit, allez, revendique aussi ton allaitement à 18 mois devant le chef de service et tout ça. Voilà.
Ok, donc, super.
Bien sûr, j'ai eu droit aux questions des médecins qui sont légitimes hein, sur « mais elle tète encore, mais est-ce qu'elle mange à côté ?» Oui, évidemment qu'elle mange, parce que bah, voilà, c'est sûr que quand on regarde sa courbe de poids, évidemment, elle avait perdu à cause de cette varicelle, enfin, rien qui n'allait. Donc voilà. Et donc là, alors pour cette grève, ce qui me faisait peur, donc il y avait la problématique du poids, hein, puisque clairement, on était dans les chaussettes au niveau des courbes.
Ouais.
L'hydratation un peu moins puisque là elle buvait quand même de l'eau et enfin voilà elle, et si je lui avais donné du lait de vache au vert elle l'aurait bu hein.
Ouais.
Donc j'avais pas cette peur. Par contre la peur qui était beaucoup plus présente c'était la peur de la fin de l'allaitement puisque 18 mois.
Mm-hmm.
Donc 18 mois et ben à 18 mois la lactation c'est plus que c'était quand elle avait 9 mois, tu vois. Et puis, surtout, la peur du sevrage, là, parce que même si je connaissais la théorie, toujours, donc les 15 jours de grève et sevrage, c'est à partir de 2 ans. Mais malgré ça, je me suis dit, mais entre 18 mois et 2 ans, il n'y a pas beaucoup de mois d'écart. Donc, si ça se trouve, cette grève, elle va se transformer en sevrage et elle ne reviendra pas parce qu'elle a 18 mois, parce que j'ai une lactation plus faible.
Mm-hmm.
Parce que, voilà. Donc là, c'était plus cette peur-là qui était présente, parce que moi, j'avais toujours pas envie d'arrêter l'allaitement, même à 18 mois.
Ouais.
C'était toujours quelque chose qui me tenait autant à cœur et qui était voilà, et pour moi qui est source de plaisir, le fait d'allaiter. Alors ça, mon mari me l'a dit. Hein, il m'a dit, mais en fait, toi, tu allaites pour toi. Tu allaites parce que ça te fait plaisir à toi. Elle, si elle a plus envie, si elle aime plus ça, voilà, il faut que là, ce que tu fais, c'est égoïste en fait de continuer à lui proposer.
Il comprenait pas là cette fois-ci.
Ouais, non, là effectivement, autant à 6 mois, à 9 mois, il comprenait, autant à 18 mois, il comprenait beaucoup moins quand il me voyait tirer mon lait à 21h là, dans le salon.
Ouais.
il comprenait beaucoup moins. Voilà. Donc je lui dis écoute, la théorie c'est 2 semaines, laisse-moi 2 semaines, je te promets. Et encore même au départ, je m'étais mis 1 semaine. Et puis après, j'ai rallongé à 2 semaines parce que je me suis dit allez, c'est trop bête. La théorie c'est 2 semaines de grève. Essaye de tenir jusqu'à 2 semaines. Voilà, moi c'était ça. Je me dis, tiens 2 semaines et après 2 semaines, ok, je lâche. Si elle y est parvenue d'elle-même, ok, eh ben, ce sera un sevrage et je l'accepterai. Mais là encore, je voulais vraiment mettre toutes les chances de mon côté et je voulais tout essayer pendant ces 2 semaines-là. Parce qu'on m'avait dit, la théorie c'est 2 semaines et la théorie c'est pas de sevrage avant 2 ans.
Ouais, donc tu t'étais mis cette deadline.
Exactement, voilà. Alors après, moi, c'était ça que je m'étais mis à moi. Hein. Enfin, c'était cette limite que je m'étais mise à moi. Évidemment, j'aurais pu dire 1 semaine et basta. J'aurais pu dire 3 jours et basta. J'aurais pu dire 1 mois. J'aurais pu dire ça. Mm-hmm. Je pense que c'est propre à chaque mère qui subit, parce que subir, c'est vraiment le mot. Hein. À chaque mère qui subit une grève, c'est elle qui doit trouver ses limites et qui doit se dire jusqu'à quel point c'est important et jusqu'à où elle est capable d'aller, physiquement et mentalement.
Mm-hmm.
Alors là, mentalement, j'étais un peu mieux armée, quand même.
Ouais.
Puisque j'avais réussi à vaincre, à vaincre la première grève de 3 jours. Par mm-hmm. contre, je pensais vraiment pas que ça allait tenir 2 semaines. Là, pour le coup, j'étais vraiment, ouais. En fait, ce délai de 2 semaines, c'était plus quelque chose qui me permettait de me préparer à faire le deuil de l'allaitement.
D'accord, ouais, tu t'étais un peu laissé ça comme sas de sortie.
Exactement, exactement. Pour moi, c'était un sas de décompression dans lequel il y avait encore quelques tétés parfois la nuit quand elle dormait et où je savourais en me disant « Allez, c'est ta dernière tétée, c'est ta dernière tétée. » Ou « Allez, encore une et c'est la dernière. » Voilà.
Mm-hmm.
Et j'ai pu quand même me préparer et à faire le deuil de l'allaitement, à faire une introspection sur l'allaitement de mon aîné, l'allaitement de ma fille en me disant « Mais regarde tout ce que tu as fait, tout ce que vous avez fait ensemble. » C'est déjà très bien. Mais ça, c'est pareil. Et j'avais ce réseau d'amis qui était là pour me soutenir et pour me dire que, pour mettre en valeur tout ce que j'avais réalisé pendant ces 18 mois.
Mm-hmm.
Et qui ont aussi, commencé qui m'ont permis de commencer à me préparer à un éventuel arrêt de l'allaitement.
Ok.
C'est pareil. Si j'avais pas eu, ces amis allaitantes ou non allaitantes, d'ailleurs, je pense que je l'aurais beaucoup moins bien vécu, quelle que fût l'issue de la grève, qui a été, donc la grève a été levée au bout de 15 jours. Donc, la théorie est vraie, je la valide. 15 jours avant 2 ans, c'est possible. Même chez un bébé, même chez un bambin qui est très exigeant en matière d'allaitement, voilà.
Tout est possible. Dans cette grève-là, dis-moi si je me trompe, mais par rapport aux deux premières, on a l'impression que, et tu le dis quand tu parles de tes amis qui te soutenaient, c'est comme si tu avais l'impression que cette fois-ci, elle n'allait pas revenir. Au sein, on a l'impression que tu étais plutôt en train de te préparer à la fin qu'au fait qu'elle allait reprendre l'allaitement.
Oui, exactement. Donc, j'essayais de naviguer entre la certitude qu'elle allait revenir pour me donner la force de continuer à tirer mon lait, continuer à lui proposer, etc. Mm-hmm. Et en même temps, j'allais de l'autre côté, à l'autre extrême, en me disant, eh bien, c'est la fin. Elle l'a décidé, c'est déjà très bien. Voilà, pour me permettre de faire le deuil de l'allaitement et de me préparer à ce que ce soit terminé. Pour que quand, au bout des deux semaines, si elle n'était pas revenue et que j'arrête les tirages de lait et que j'arrête tout le tralala,
ouais, que tu tombes
ce soit pas
de
trop
haut.
Difficile pour moi. Voilà. Okay.
D'accord. Et puis finalement, elle est revenue.
Et puis finalement, donc progressivement, hein, par contre, ça, c'est, elle y est revenue progressivement. Je veux dire, à partir du 11e soir, elle a redemandé un peu pour dormir. Mm-hmm. Et puis le 12e soir, elle a vraiment redemandé pour s'endormir le soir.
Ouais.
Voilà. Et le 13e soir, vraiment, plus la nuit, plus une tétée le matin en se réveillant. Donc, vraiment réveillée, les yeux ouverts. Je me suis levée avec elle au sein qui tétait pour ouvrir les volets, aller réveiller le grand pour l'emmener à l'école. Mm-hmm. Et donc là, elle avait les yeux ouverts. Elle me regardait en train de téter. Et je lui ai dit, mais regarde, écoute, tu es en train de téter là. Et cette mule, elle me regarde dans les yeux en tétant et elle me fait non de la tête. Non, mais vraiment. Je lui dis, mais si, tu es en train de téter. Elle me fait non de la tête. De manière consciente, puisqu'à 18 mois, elle savait très bien ce que c'était oui et non. Voilà. Donc vraiment, le niveau d'obstination de la bestiole, hein, quand même. Hein.
Elle était convaincue qu'elle ne téterait pas. Et même en tétant,
elle était convaincue
non.
Et que ce n'était pas ça, qu'elle n'était pas en train de téter. Voilà. Donc après, j'ai arrêté de lui dire ça parce que je ne voulais pas l'énerver.
Mm-hmm. Mais voilà. Ah non, on ne va pas la brasser là. Là, il n'est pas question
c'est
de braquer
ça.
L'enfant.
Je me dis, non, allez, c'est bon. Elle a 18 mois, c'est aussi la phase où il commence un peu à vouloir dire non à tout, donc c'est pas grave. Elle faisait sa crise d'ado là, mais bon, je me suis dit c'est gagné. Là, quand elle a tété de manière consciente, les yeux ouverts en me regardant, là ouais. Je me suis dit quand même, on est vraiment sur la voie de la voilà où elle va lever son piquet de grève et elle va revenir.
Okay.
Donc là, c'était le 13e jour peut-être. Et effectivement, les 48 heures suivantes, donc les 48 dernières heures de grève, elle a redemandé un petit peu, je sens qu'elle remettait les mains dans le pull, maman, tété, voilà, ça revenait doucement, et puis l'après-midi du 15e jour, on faisait une promenade en porte-bébé, et elle m'a demandé à tété, voilà, et ensuite, c'était bon, c'était reparti.
Ok.
Et après, il y a eu une phase, à nouveau, d'addiction complète où elle me demandait toutes les 10 minutes maman tété, mais là encore exigence madame ne voulait téter que dans la chambre, donc tété dodo. Alors c'était pas forcément pour s'endormir, mais elle m'emmenait dans la chambre parce qu'elle voulait téter allongée ou téter en crapahutage. Enfin voilà quoi, elle voulait téter allongée, elle voulait pas téter dans le salon, mais en bon. Tout cas voilà, et donc là ça a vraiment duré 2 semaines. Et bah pareil, j'étais quand même très fière de moi et de nous, hein, puisque bah, voilà, l'allaitement, c'est toujours quelque chose qui se fait à deux. Donc j'étais aussi très fière de nous deux, après ces 2 semaines. Voilà, je lui ai beaucoup parlé pendant les 2 semaines, voilà, parce qu'elle avait mal au départ. Enfin, c'était vraiment une grève à cause de la douleur, donc
j'ai
dit qu'elle avait su dépasser sa douleur, etc. Et après, bah, c'était quand même très chouette. Les tétés ensuite, c'était voilà, des tétés jeux, des tétés câlins, ben voilà, comme quand on allait un bambin, c'était vraiment très chouette et j'étais très fière de nous.
Est-ce que ces grèves de tétés, à chaque fois, elles ont été des tournants dans votre allaitement ?
Je pense que oui. Alors pour elle, bon, je ne pourrais pas parler à sa place, hein. Mm-hmm. Mais moi en tout cas, c'est vrai qu'à chaque fois, j'étais vraiment fière de nous, de moi évidemment, mais vraiment de nous. C'était quelque chose qui m'a rendue fière de notre relation et où j'ai eu l'impression que notre relation mère-fille se renforçait quand elle revenait au sein, quand de nouveau je la sentais voilà, me refaire confiance, se laisser aller au sein. Parce que bah, je ne ressentais pas ça quand elle faisait ses grèves et qu'elle s'endormait contre moi en pleurant. Je ne ressentais pas du tout cette même béatitude qu'elle avait, qu'elle a toujours d'ailleurs quand elle s'endort au sein, ou voilà, quand elle prend le sein, quand elle me regarde et qu'elle joue.
D'accord. Et alors, comment t'envisages la suite maintenant ? T'as envie d'aller vers un sevrage naturel avec cette louloute ?
Oui, oui, oui. Toujours. Alors, mes fameuses copines là me disaient, me charriaient en me disant, mais tu vas voir, là, elle te fait grève et puis tu vas nous renvoyer des messages quand elle aura 4 ans en nous disant que tu n'arrives pas à la sevrer. Peut-être.
Peut-être bien.
Peut-être. Écoute, peut-être. En tout cas, là, elle sort juste d'une grosse otite et d'une grosse fièvre avec le nez bien bouché. J'ai eu très peur qu'elle refasse une grève parce que le nez bouché, elle n'arrivait pas à téter et elle ne m'a pas fait de grève. Donc voilà.
Ouais, c'était vraiment la douleur la dernière fois qui a déclenché ça.
Mais oui, effectivement, le sevrage naturel, oui, moi ça me. Enfin, en tout cas, là, à l'heure actuelle où je te parle, hein, ça me conviendrait.
Ok. Toi, en tant que médecin généraliste et qui n'était pas plus renseigné que ça sur l'allaitement avant d'allaiter qu'est-ce que ça a changé, tes expériences d'allaitement dans ton métier, peut-être ?
Ah bah alors du coup, j'aime beaucoup accompagner des mamans allaitantes. J'aime beaucoup les soutenir. Quand il y a une prise de poids qui est mauvaise le premier mois ou même ensuite, j'essaye de tout faire pour trouver les causes et surtout les moyens de corriger ces causes et de faire en sorte que le bébé reprenne du poids sans avoir recours à un allaitement artificiel, si c'est le souhait de la mère. Mmh. Je peux parler des grèves de tétée aussi, en toute connaissance de cause. Donc je me dis que le jour où j'aurai une maman allaitante qui a une grève de tétée, eh ben, au moins, je saurai la conseiller.
Ok. Et à titre personnel, qu'est-ce que ça a changé, ces expériences d'allaitement dans ta vie ?
Alors, ça m'a donné confiance en moi, confiance dans mon rôle de mère. Et puis, c'est surtout que ça a réveillé en moi quelque chose d'un peu instinctif dans la maternité, d'un peu animal, un peu comme une mère louve, tu vois, quelque chose que je ne soupçonnais pas en moi avant d'avoir des enfants. Et voilà. Mais c'est vraiment, oui, cette confiance en moi. Bon, alors je pense évidemment que je l'aurais eue si j'avais eu des enfants que je n'avais pas allaités, bien sûr. Hein. Mm-hmm. Mais encore plus à travers l'allaitement et encore plus à travers ce deuxième allaitement qui a été compliqué, avec toutes les épreuves qu'on a traversées ensemble.
Ok. Aux mamans qui te posent des questions, peut-être tes patientes ou des copines, ce serait quoi ton meilleur conseil de maman allaitante ?
D'avoir confiance en soi. Confiance en soi, confiance en son corps, confiance en son allaitement, et de bien s'entourer. De bien s'entourer.
De bien s'entourer, donc, et à titre perso et personnellement.
Oui, perso
et professionnel.
Oui, vraiment.
Yes. Quelle histoire semée d'embûches.
Ouais, c'est clair. Et en plus, je me dis que c'est pas fini, puisque elle a 21 mois, mais il y a encore, j'espère, de longs mois d'allaitement qui nous attendent. Et je me dis encore, peut-être qu'il y aura d'autres embûches, d'autres histoires. Alors après, là, c'est vrai que comme elle parle, c'est plus facile. Hein. C'est beaucoup plus facile de verbaliser les choses, bien sûr, et pour elle aussi. Mais voilà, peut-être qu'il y aura d'autres aventures qui nous attendent. Et ça, c'est aussi super chouette.
Est-ce que tu veux répondre à mon interview Fast Milk avant de partir ?
Mais ouais, avec plaisir.
Alors, Eglantine, quelle est ta tétée la plus insolite ?
Ma tétée la plus insolite, c'est celle qui a eu lieu à l'arrière-boutique d'un contrôle technique pour ma voiture. C'était avec l'aîné, puisque la petite n'aurait jamais voulu téter dans l'arrière-boutique d'un garage auto.
Ça aurait même déclenché une grève.
C'était pas possible. Hein. C'était avec l'aîné, voilà, qui lui convenait très bien. C'était pendant le contrôle technique. J'ai demandé au mec, donc voilà, il avait 4-5 mois, si je pouvais le faire téter, le petit. Il m'a dit mais oui. Et le gars, hyper sympa, il m'a même donné un fauteuil, un carton sur lequel poser mes jambes. Enfin, c'était super chouette. Et donc, j'étais là en train d'allaiter entre les machins de garage, les turbines, les trucs et les bidules.
Génial.
Et voilà, c'était super.
Sympa, on aime bien. Le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement ?
Oh, bah, comme, voilà, effectivement, les tétés dans la voiture, hein, avec les seins qui dépassent, ouais. Le lait qui gicle partout dans la voiture. Voilà, et je pense, hein, ou deux camionneurs qui s'est bien rincé l'œil. Clairement, c'était pas mes heures les plus dignes de donner le sein dans la voiture.
Hyper lactante, donner le sein dans la voiture, c'est vrai que ça peut vite tourner au fiasco.
Ah oui, ah bah oui, non mais là oui, il y en avait sur les vitres, sur le fauteuil, enfin bref.
Ok. Ta position préférée, Glantine, dans le Kama Sutra de l'allaitement, c'est quoi?
Alors, je pense que c'est une position qu'on a plus ou moins inventée. Mm-hmm. C'est la position du poulpe ou la position de la serpillière, selon. En fait, c'est une variante du biological nurturing, tu vois, ouais. Où le bébé, du coup, est posé ventre à ventre. Là, en fait, je l'ai fait avec mon aîné, mais avec la petite aussi, elle l'aime beaucoup. Et c'est d'ailleurs dans cette position qu'à chaque fois, elle a rompu les grèves. Donc, voilà, couchée sur moi sur le ventre, mais avec donc les bras, tu vois, qui m'entourent comme ça, comme un poulpe. Et mm-hmm. les jambes qui pendent un peu sur le côté. Voilà, je ne sais pas si tu vois de quoi je parle. Et moi, évidemment, je suis semi-allongée, voire même allongée, puisque comme toutes les mères allaitantes, je suis très flemmarde et donc j'aime beaucoup dormir pendant que mon enfant tète. Donc je dors, ouais. Je suis allongée et j'ai le bébé qui est là comme un poulpe ou comme une serpillière sur moi et qui tète. Et
choisissez l'image que vous préférez.
Ouais, et surtout, et c'est vraiment dans cette position-là qu'à chaque fois, qu'elle s'endormait quand elle refusait le sein et... qu'elle aime beaucoup téter, qu'elle aime beaucoup s'endormir, c'est dans la position de la serpillière. Voilà.
Ok, super. Voilà, on a donc inventé une position aujourd'hui, c'est la position de la serpillière à reproduire chez vous, il n'y a aucun danger. A priori,
mais oui,
vous pouvez le
super,
faire,
super pratique.
Sans l'aide de professionnels. Ouais. Si en un mot, tu pouvais me résumer tes allaitements, alors dis-moi un mot pour le premier et un mot pour le deuxième, ils sont tellement différents. Oui. Que...
Alors pour le premier, je dirais un allaitement très fluide. Voilà, très facile, très fluide. La deuxième, j'aurais dit un allaitement funambule, avec toujours cette sensation d'être sur un fil, au-dessus du vide, ouais. À pas savoir si on va rester sur le fil ou si on va tomber d'un côté ou de l'autre.
Ok, funambule. Ouais. Serpillière funambule. Vous voyez une serpillière sur un fil,
c'est ça, c'est nous, c'est moi, voilà.
Ok, non mais c'est joli comme image, mais bon, voilà, c'est des allaitements... qui sont un peu sensibles, oui. Quoi. Mais ils ont le mérite d'exister. Oui. Glantine, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. J'étais ravie de parler grève de tétée avec toi aujourd'hui parce que c'est un sujet qui est voilà, pas très connu, à travers lequel je pense bon nombre de mamans finalement passent. Et voilà, selon les âges, peuvent penser à du sevrage, oui. Tout simplement, d'un bébé qui se sevre tout seul. Et puis en fait, non, il y a peut-être quelque chose qui les a embêtés, que ce soit physiquement, psychologiquement, et qui génère cette grève de tétée. Donc je trouve que c'était vraiment cool d'avoir... d'avoir ton vécu là-dessus, t'en as eu trois différentes, trois timings différents, à des âges différents, c'est... Voilà, je trouve que c'est un témoignage qui est super riche, alors merci de l'avoir partagé avec tout le monde, c'est du milkshaking de qualité.
Avec plaisir.
Voilà, et puis si vous voulez suivre Eglantine, ça se passe sur son compte qui s'appelle Docteur Doudou. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu nous racontes sur ton compte, Eglantine?
Je t'entends plus, qu'est-ce que tu m'as demandé?
Ah, je disais, qu'est-ce que tu nous racontes sur ton compte, Eglantine?
Qu'est-ce que je vous raconte? Alors, j'essaye de pas trop vous raconter de bêtises. Non, si, j'essaye de vous raconter quelques bêtises quand même pour vous faire rire, pour vous faire sourire. Voilà, je partage mes galères, je partage quelques infos médicales. Pas d'écran avant 3 ans, voilà. Celles qui me suivent et me connaissent savent que je partage beaucoup au sujet de la protection des petits... par rapport aux écrans. Non, je rigole, hein, vous avez le droit. Si vraiment vous n'en pouvez plus, vous avez le droit. Mais voilà, soutien, voilà, tout ce qui est évidemment la parentalité positive dans toute sa splendeur, mais aussi le respect et l'écoute des mamans et des papas. Et puis voilà quoi, la vie qui va, qui vient, le lot quotidien.
Ok, merci beaucoup Eglantine pour ton témoignage encore une fois. Et puis je vous dis à tous et à toutes, à très bientôt dans Milkshaker. Merci mille fois d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous retrouverez tous les épisodes mais aussi une rubrique Milk Letters constituée de témoignages écrits, un autre support pour vous transmettre toujours plus. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à m'aider en le soutenant,
Pour cela, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire, à lui attribuer 5 étoiles en fonction des plateformes, ou encore en parlant beaucoup, beaucoup, beaucoup autour de vous. Je ne vous présente plus Emma et son titre I'll Be There qui continue de nous accompagner. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
I hate to see you down. Can't stand to know your hurt. When you say it's getting loud, the voices in your heart. And you know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. Text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. I'll be there. I know I'm not perfect. Sometimes I look myself, but I hope you know I care. You can meet me anywhere. And you know I get it, so let it all out. If anyone comes at you, then I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I guide you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. Oh, I'll be there, I'll be there. Trust me, every time I have your back, and I know that you do the exact same for me. Side by side, don't even need to talk. You know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. So I'll be there, I'll be there.